Il fallait bien partir de quelque part. Nous sommes partis à Bologne, à la recherche d'images et de souvenirs, sans nous connaître et sans idée précise sur ce que nous voulions faire, sur ce que nous voulions dire. La plupart d'entre nous ne connaissaient pas la ville rouge. À bien des égards, ce voyage était donc une sorte de rencontre forcée, d'exercice de pensée collective. Dans une ville neutre, presque en terra incognita, il fallait que quelque chose jaillisse du rien. Non loin de la Piazza Maggiore, Via Clavature, petite rue touristique et animée, sans doute déserte à l'heure où j'écris ces lignes, il y a l'église Santa Maria della Vita, apparemment semblable à beaucoup d'autres, qui abrite cette œuvre étrange et magnifique, six corps et six figures en terre cuite, tordues d'amour et de douleur, autour de la dépouille du Christ. Dans un coin retiré de l'église, cette œuvre chuchote son scandale. Lamentation sur le Christ mort est l'œuvre la plus célèbre de Niccolò dell'Arca, mais les circonstances de sa réalisation, ainsi que la vie de son auteur, demeurent troubles et mystérieuses. Niccolò dell'Arca serait né au sud de l'Italie, dans les Pouilles, ou peut-être à Naples, entre 1435 et 1440. Il aurait réalisé la Lamentation sur le Christ mort entre 1463 et 1490, avant de s'éteindre en 1494. Cette sculpture apparaît comme un objet artistique insaisissable, qui n'a eu d'influence notable sur aucune école postérieure. En la contemplant, le spectateur ne peut qu'être frappé par le réalisme de la représentation des visages figés dans la matière. Oui, ce qui frappe d'emblée lorsqu'on regarde ces sculptures, c'est le réalisme des expressions, la douleur organique de visages figés dans l'éternité. Les spécialistes pensent que Niccolò dell'Arca a pris comme modèle de véritables malades hébergés dans un hôpital proche. Si l'on ne connaît pas non plus l'ordre de disposition originaire des sept personnages, leur organisation suggère un crescendo affectif. Au centre, le Christ mort porte les marques de la croix sur le corps, mais son visage est apaisé. Autour de lui s'agitent et s'émeuvent ses fidèles déchirés. Après des explications, nous avons réfléchi sur la façon dont cet ensemble sculptural, véritable galerie de regards, mettait en scène différents types de rapports à l'image de la mort.
Fragment pour dell'Arca. Marie-Madeleine, dans la peine et la fureur, plonge vers la dépouille. La douleur égeait, projet plongé dans la chair de l'image, ou plutôt tentative de fuite, dans ce qui vint avant elle. Retour vers le vivant, désormais privé d'existence. La souffrance rêve de ranimer, d'annuler l'entrée dans l'éternité du mourir. Elle est refus en mouvement. Marie de Nazareth s'interdit de voir. Le déni refuse activement, il est détour, volte-face, substitution d'une réalité convenable à une autre, intolérable. Par lui s'érigent d'autres mondes, d'autres images qui doivent à tout prix ensevelir ce qu'on ne saurait affronter. Marie Cléophas implore la pitié des cieux, les mains jointes, ployées par la douleur, elle hurle devant l'insupportable réalité. Jean songe à l'irrémédiable inscription de la vie dans la mort. Il s'écarte des larmes, des sentiers périlleux de l'émotion. Il est dédoublement, réflexivité, écart. Le regard stoïque de Jean, c'est la lucidité comme blessure la plus rapprochée du soleil. Marie Salomé, elle, déplore. Son visage raidi dit toute sa déchirure. L'image de la mort s'inscrit à même sa chair, dans les larmes et la crispation. Son corps se courbe sous le poids de la peine. Intimement, elle sait qu'il ne reviendra pas. Enfin, Nicodème a l'œil sur l'horizon. Il a accepté la mort et son image. La voilà digérée, assimilée, par son regard que tantôt elle brisa. Ayant guéri, Nicodème est prêt pour d'autres visions.
Les regards des sculptures prolongent la trace du Christ trépassé. Paradoxalement, le deuil, la douleur en ancien français, fait exister l'absent, le restitue par la pensée dans l'espace du monde. Son cortège le fait exister encore, par la vue, par la peine. Chacune voit l'autre défait de la vie et lui permet d'exister encore, le temps d'un regard. Après cette réflexion commune sur l'unicité du regard subjectif, nous nous sommes progressivement interrogés sur la notion d'image provocante. La sculpture met en scène la réactivité du regard humain
l'action ou l'émotion qui font suite à une vision. Il s'est alors agi de questionner les fragilités de l'œil confronté à tout ce qui fait image.
Cette pièce n'a jamais été jouée. C'est une reconstitution possible d'une pièce de théâtre qui aurait pu se jouer mais qui ne s'est pas jouée, qui se jouera peut-être. Personnage, Pauline Cabrol, Ninon Chenivès, Juliette Georges, Cindy Gervolino, Julie Gouéran, Zoé et Marie Roulier, Nicolas Krastev-Vinkinon, Prunefi, Gaëtan Sorensen, Tal Yaron et Élise Zong.
Acte 1, le règne de l'image. Tous les personnages sont assis en ligne. Dans leur dos, des images défilent à grande vitesse. Seul, un jeune homme se lève et récite quelques vers qu'il semble venir d'écrire sur un morceau de papier griffonné.
A break in language. An outsider listening in. The dead talk with many voices, and the many voices still alive speak alone. The same images I have lived through and will continue to do so. It began before I was even born. It invades for attention. It pulls the veil over reality. The billboards have LEDs. My phone is its screen. Here we talk together. Here we despair over the dead.
Je n'arrive pas à sortir de l'image. J'ai donc voulu poser les termes de l'équation de ces statues que nous avons vues à Bologne. Les voici. La découverte du Christ mort provoque des réactions différentes et simultanées chez les maris. Or, la mort, c'est toujours l'image de la mort, puisque personnellement, je ne l'ai jamais rencontrée. La mort, c'est donc des signes extérieurs qu'on remarque. Son pouls s'arrête, ses membres se raidissent, il ne postera plus sur Instagram. Elles réagissent donc à l'image de la mort du Christ que l'on a soigné. Il est allongé au sol, on lui a croisé les mains au niveau du bas-ventre pour un peu de tenue. Seulement, le Christ, c'est une image, l'incarnation de Dieu. Ceux qui entourent le Christ incarnent chacun une réaction différente face à l'image de la mort. C'est imagé. Ce sont les représentations de personnages en terre cuite. Ce sont des statues qui regardent une statue. Ce sont des représentations de modalités de réception de personnages en terre cuite qui réagissent face à l'image de la mort de la représentation en terre cuite d'un personnage qui incarne Dieu. Je regarde ces représentations de modalités de réception de personnages en terre cuite qui réagissent face à l'image de la mort de la représentation en terre cuite d'un personnage qui incarne Dieu. Je regarde des statues qui regardent une statue. Je regarde les différentes modalités de réception face à l'image de la mort. Je regarde le Christ, incarnation divine. Je regarde l'image de la mort qu'on a soignée. Je regarde les différentes réactions des maris. Je me revois regarder les réactions différentes des maris. Je me revois regarder les différentes réactions de représentation de modalités de réception de personnages en terre cuite qui réagissent face à l'image de la mort de la représentation en terre cuite d'un personnage qui incarne Dieu. Et tout ça sur fond blanc. Mais je suis nulle en maths.
Puisqu'il s'agit de parler d'images provocantes ici, effectivement, pour moi, elle appartient souvent à la sphère médiatique. Elle crée une forme d'éloignement avec son objet car elle en propose une mise en scène, une sorte de théâtralisation à laquelle on ne peut pas échapper, une mise en abîme que tu révèles ici, Juliette. Dans ce cas, est-il réellement possible de parler de déni de l'image? Pouvons-nous vraiment détourner le regard? Le déni a, paradoxalement, une connotation très active. C'est un refus marqué et volontaire de voir. Il a une portée spatialisante, implique un mouvement et la projection dans un espace autre, choisi, reconstruit pour supplanter l'image refusée. Le déni implique la création d'un nouvel ensemble d'images. Ce n'est pas simplement refus de voir, qui prendrait la forme d'un fond noir, c'est l'invention d'images qui peuvent être vues, dont on peut soutenir le regard. Le déni contient, en germe, la forme refusée, l'image effacée et niée, et ce qui lui sert de point de départ. Donc in fine, il ne refuse rien du tout. Le détournement de l'image est rarement autre chose qu'un 360 degrés et une confrontation malgré tout. Mais il fusionne sujet et objet. Il est acceptation d'un regard construit et de l'idée que le monde vu est un monde construit par notre refus de voir. Je te rejoins ainsi sur l'impossibilité de se détourner, de sortir des images.
D'ailleurs, le fond de la scène des statues m'a vraiment fait penser à une sorte de théâtre. Peut-être que Cindy, de façon réflexive, c'est cette impossibilité même à se détourner de l'image, de la mise en scène, de la théâtralisation qui impose une provocation si forte, si prenante, car finalement, on sait qu'on est devant des statues, mais personnellement, j'ai ressenti une confusion devant elles. J'étais comme pris dans un cortège religieux, un enterrement décomposé, en lenteur, en mouvement successif d'une sensation et état que tout être peut ressentir, la mort de quelqu'un.
Ce que tu dis, c'est aussi que les statues forment un mouvement de séquence. En cela, on est proche du cinéma.
Mais je pense que ça vient aussi de notre rapport contemporain à l'image et à la surabondance de l'image. Il y a des images partout. On est complètement envahi d'images et chaque image, on appelle une autre et on va cliquer, on va arriver sur une autre image. Et ça s'arrête jamais. Ça me rappelle cette légende urbaine qui dit qu'on est tous reliés à tous par une chaîne de maximum 5 personnes. Vous savez, où si tu connais quelqu'un, cette personne connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et en fait, comme ça, tu peux être relié à n'importe qui. Et c'est la même chose avec toutes les données qu'on génère dès qu'on clique quelque part et les liens qui se font. Je ne sais pas si vous avez reçu ce mail de Google qui fait votre top 5 des lieux de l'année et qui retrace minute après minute votre itinéraire, qui vous dit « Oh là là, le lieu où tu as passé le plus de temps cette année, c'est ce café rue de l'école polytechnique à Paris. » Et ça qui vous dit à peu près combien de temps vous avez passé aux toilettes chaque jour. Est-ce que ce serait pas ça en fait la provocation ?
Un brouhaha de réactions, des voix s'élèvent. Les images qui défilaient en fond laissent la place à un écran noir. Acte 2. Quand l'image provocante rencontre le politique.
Je suis d'accord pour déplacer la question de l'image provocante vers le politique. C'est bien gentil de dire qu'on est bloqué dans l'image, je comprends, mais ça ne nous empêche pas de la penser. L'image provocante, c'est tout ce qui nous provoque en permanence. C'est le patriarcat, c'est le pouvoir. Et on nous dit que c'est nous qui sommes provocantes.
Provocation, ça a quelque chose de négatif et c'est ça justement que je trouve intéressant. Ce côté sale, vulgaire, quelque chose en trop qui fait tache, qui dérange.
Oui, dans mon imaginaire, l'adjectif provoquant ou provocante est accolé au mot femme, qui résonne étrangement avec le terme image et l'objectification de la femme. D'ailleurs, quand je tape image provocante sur mon moteur de recherche, je tombe systématiquement sur des images de femmes ultra sexualisées.
Et précisément, être provocante quand on est une meuf queer racisée, c'est pas très compliqué. Il suffit de respirer. Il suffit d'écrire des phrases comme celle-là. On dit « Je suis là » et bim, tout est catapulté. La détente est pressée, la balle part. Être une meuf queer racisée provoque beaucoup de réactions, quelque part entre l'urticaire et la volonté d'anéantir. Tu provoques parce qu'on a décidé que tu ne devrais pas exister. T'es une hyperbole vivante, même sans tes talons, tes paillettes, avec ou sans tes poils, de toute façon, tu l'auras toujours un peu cherché. La provocation, comme beaucoup de trucs, c'est une affaire de pouvoir. On croit qu'on est provoqué naturellement par certaines existences, tout comme on croit qu'on désire naturellement certaines existences, ou qu'on est naturellement foutu dans une certaine existence. L'image provocante, c'est une construction de la société.
Oui, il faut d'abord qu'il y ait une reconnaissance. L'image provocante peut être clivante. Elle oblige à un positionnement qui relève d'une reconnaissance, ou non, de ce qui est non représenté, mais crucial. Par exemple, une image provocante dénonçant les violences policières implique la reconnaissance d'un rapport de force et des acteurs de ce rapport de force. L'État est à la fois absent et présent sur l'image. Accepter sa présence implique la reconnaissance d'un sous-texte dans l'image. L'image provocante passe donc du statut d'enregistrement du réel à celui de représentation, ce qui implique à la fois des enjeux esthétiques, politiques, mais permet également de relever sa portée fictionnalisante. Elle porte un discours sur le monde.
Je suis d'accord avec toi. Au-delà de la question de la société patriarcale, il y a la société capitaliste qui est précisément fondée sur un capital d'image. Quand on parle de l'image provocante, on sous-entend que c'est l'image même qui inciterait à faire quelque chose. Il y a une sorte de personnification de l'image. On prétend penser que les images veulent quelque chose, nous conduisent à faire d'autres choses, à passer à l'action. C'est un peu le vieux topic de la censure, l'image de la violence conduirait à la violence. Or, comme le dit bien Monzin dans « L'image peut-elle tuer ?», c'est une absurdité. L'image n'est pas violente intrinsèquement, ses contenus ne sont pas violents ou provoquants, ils ne nous incitent pas à passer à l'action. Ce qui est vraiment violent, c'est l'abolition de la possibilité d'une distance critique avec les images.
Peut-être que ce qui change dans la réception de cette œuvre, c'est le fait d'avoir le choix, le devoir et la nécessité de pouvoir incarner une place face à leur situation, comme une forme de catharsis. Laquelle serais-tu si tu étais à notre place ? Toutes ?
Alors quoi ? On fait quoi ? Et si on crie ? Et si on dit « je suis la connard » Alors c'est l'hystérie. Tu n'as pas le droit à la colère. Tu n'as pas le droit à la légitimité, ni de tes émotions, ni de tes réactions, ni de rien. Tu manges tes morts, te, et tu le fais en silence, merci. Merci Freud, dont on peut désormais découvrir la vie dark et tourmentée dans une série Netflix austro-allemande.
Si, mais la plupart des gens ne crient pas. Justement, tu parles de Netflix. La médiatisation par laquelle nous provient l'image qui devrait nous provoquer nous assigne en fait à un non-agir, parce qu'on ne vit les événements qu'à travers nos écrans.
Je pense à un parallèle avec le paradoxe sur le comédien de Diderot, qui explique que le bon acteur ne ressent pas les passions qu'il représente. C'est le postulat d'insensibilité et de distanciation entre le support, l'image, le comédien, et l'émotion provoquée qui pourrait nous intéresser ici.
Ce que j'ai écrit en rentrant de ce voyage à Bologne, sur l'image provocante, je ne sais même pas si je le pense encore. Je ne sais même pas si je suis d'accord avec ce que j'ai écrit. C'est trop compliqué. Je sais juste que... Je ne sais pas pourquoi il n'y a toujours pas la révolution. Peut-être qu'il faudrait lire simplement du Gramsci. J'ai parlé d'un échec de la culture et des images à provoquer. J'ai dit « malgré les larmes ». Ce que je voulais dire, c'est qu'aucun spectacle, aucune image ne m'a jamais donné la force ni le courage suffisant pour agir de manière radicalement révolutionnaire, quitte à tout perdre. Malgré la rage. Cela, ce désir de tout changer et d'être prêt à tout perdre, je l'ai plutôt ressenti dans des nuits d'insomnie, où les émotions étaient exacerbées plus qu'elles ne l'étaient par les images. J'ai dit peut-être que nos rapports à l'image sont trop solitaires, ou alors que les images échouent à provoquer l'action collective. J'ai dit ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas sûre que le problème soit là. J'ai dit que ce que peut encore l'image, en revanche, c'est nous provoquer à cet endroit, cette faille, cette blessure, qui fait que l'on s'en trouve bouleversé à jamais, qu'on est touché par une image qui va rester là, bien présente, et nous faire loucher autrement. Une image comme une forme derrière quelques gestes dans la rue, des couleurs plus grandes, des oiseaux possibles. Ces images qu'on garde en mémoire et qui nous aident à trouver le réel chaque jour. C'est peut-être aussi pour cela que nos textes, beaucoup de nos textes, étaient lyriques. Du coup, les images, c'était pour tenter de trouver ce monde, de trouver le réel de ce monde de merde, merde jusqu'à l'horizon. À la fin, j'ai écrit... Puis il faudra trouver son rythme à cette grande trouée générale, et ce sera peut-être l'heure du mouvement, en dehors de ce livre.
Je pense que tu as raison de parler de lyrisme pour qualifier la tonalité de certains textes de cet ouvrage. Mon propre lyrisme, d'ailleurs, est né d'un rapport désorienté au réel, d'un besoin respiratoire de mots atténuants, mais aussi d'un sentiment, je dirais, d'essoufflement du monde. Face à ce désordre, l'image donne chair et épaisseur à ce qui se déroule, à ce qui se déplace. Aussi, je trouve ton emploi de trouée extrêmement intéressant, Ninon, puisque tu sembles associer l'image et la création à une transpercée, à ce qui supposément viendrait t'ébrécher, écorcher, voire détruire le réel. Je suis né troué, écrit Michaud. Si on renverse la perspective que tu proposes, ne pourrait-on pas penser alors que l'image vient au monde pour prendre place, pour boucher, pour combler une déchirure déjà advenue, dans un passé insituable ? Les images provocantes sont celles qui font chemin vers notre abîme initial. Et je sais gré aux artistes qui ont eu la force de former des images, autant de douleurs sauvées, de désespoirs rehaussés, proprement révoltantes. Révoltante parce qu'elles entérinent un rapport renouvelé, requalifié au vivant. Aragon, lorsqu'il écrit que les amants s'étreignent pareil à des voiles marines qui tombent sur le pont d'un navire chargé de pestiférés, ne provoque-t-il pas là, dans l'esprit de chacun, une véritable mue d'essence ?
Il y a quelque chose dans le monde qui t'appelle, qui te défie, qui te violente. L'œuvre d'art, pour moi, c'est cette réaction face au monde. Je crois qu'elle est l'union d'un regard et du monde, à un instant, fragile et contingente. Bien sûr, ce sera un défi envers nous-mêmes et envers les autres. C'est ce que je retiens des définitions de provocation. Exciter quelqu'un, le pousser à, l'inciter à se mesurer avec soi, faire naître, être à l'origine. Du latin provocare, appeler dehors, faire venir, faire naître quelque chose. Au terme du défi, il y aurait une certaine noblesse à acquérir, à faire naître. La provocation, finalement, c'est la coucheuse d'âme.
L'image provocante serait donc ce qui réussit à faire s'attarder, à retenir, en même temps qu'elle ouvre une nouvelle possibilité d'être. Entre rétention et projet, entre pétrification et ébranlement, l'image est le miroir d'un réel inlassablement dynamique. Nous entretenons avec elle, si j'ose dire, un rapport de fascination, entre détournement et irrésistible attraction.
Une image apparaît progressivement sur l'écran dans leur dos. Acte 3. L'art est le résultat d'une provocation.
On parle de ce qui nous provoque, de ce qui ne nous provoque plus. Et pour ma part, l'art me provoque. L'œuvre d'art peut être vue comme le résultat d'une provocation et qui peut être détachée de son auteur. Le résultat ne serait pas une provocation en tant que telle, mais bien l'œuvre d'un sujet provoqué, violenté, voire aliéné, comme vous disiez. La création semble dévier d'elle-même et peut aussi remettre en question la notion d'auteur. C'est tout l'enjeu de l'art moderne. Passer d'une fixité de l'œuvre à une œuvre sans cesse mouvante, car en partie déterminée par la réception. J'ai peur de l'hubris, de la prétention de l'artiste qui veut enseigner la vie aux autres, comme s'il était plus vivant. Mais après tout, peut-être l'est-il.
Lorsque j'ai découvert la statue, la première chose qui m'a frappée, c'est le nombre de personnages autour d'un défunt, et l'identification ou empathie possible, accentuée par leur taille humaine. J'ai été fascinée, presque effrayée par les expressions très exagérées de tous ces personnages. Puis, en prenant le temps de tous les observer, les scruter, j'ai pensé aussi au sculpteur et au temps qu'il a pu passer à réaliser cette œuvre. Je dirais qu'ici, plusieurs temporalités se croisent. Une première, qui est celle du référentiel biblique. Une deuxième, qui est celle de l'artiste et de son époque, notamment avec le personnage de Nicodème, habillé à la mode de la Renaissance, et donc à la mode de l'époque du sculpteur, et une dernière temporalité, qui serait celle de la réception de cette œuvre, intemporelle par son sujet, la perte, peut-être plus que la mort elle-même.
Mais c'est vrai qu'en fait, tout ça, c'est parti de ces drôles de statues vraiment fascinantes à Bologne. Et moi, j'avais jamais vu des statues en terre cuite, et j'ai déjà été très émue par des tableaux, mais c'est rare que ce soit aussi net. Et... Enfin, c'est-à-dire que ces statues, on s'en souvient. Il y a quelque chose qui déborde avec ces émotions excessives, hyper représentées, presque surjouées, comme si la statue venait te voir, t'attrapait et te disait « Regarde !» Et puis ce petit jeu, et toi, t'es qui ? T'es laquelle de ces femmes ? Ou peut-être que tu es l'homme, ou alors tu es Jésus. Et même sans aucune culture biblique, il y a immédiatement quelque chose de ludique, une identification qui s'instaure et en même temps, toujours avec prudence parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de grave là-dedans. Hein. Dans le rapport à la mort, il y a vraiment quelque chose de grave. Et je pense que c'est ça aussi qui touche. Et enfin, moi, c'est comme ça que j'ai lu ce rapport entre la provocation et les statues. Le fait de provoquer comme une incitation à regarder et le fait de regarder comme une incitation à réagir. Il y a quelque chose dans ces émotions ultra représentées qui, dans la vie courante, peut être assimilé à ce type de provocation. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce rapport, finalement, entre la provocation et l'émotion. Et c'est ça aussi que j'ai essayé de montrer dans mes textes. Qu'il y a dans l'émotion qui s'expose, comme dans celle de Marie-Madeleine, quelque chose de provoquant, presque au sens de dégoûtant, quelque chose qui appelle une réaction que personne ne veut donner, quelque chose de vain, finalement, et de très beau en même temps.
Ces images auxquelles je ne peux réagir sont celles qui me marquent le plus. Je sais qu'elle a déjà marqué mon esprit, car je ne pourrai pas l'extérioriser. Elle est en moi maintenant. Elle réapparaîtra parmi mes autres travaux, mes autres pensées. Elle se recomposera malgré elle. J'ai toujours eu un lien étrange avec l'Italie. Ce pays résonne en moi comme une madeleine de Proust géante. C'est toute la ville qui sent la mort maintenant. Je me reconnais dans la pudeur. Elle dépasse la mélancolie. Elle blesse bien plus que l'esprit. Elle ralentit le temps et les sentiments. Il n'y a rien de pire qu'un cri silencieux, face au malheur, qu'il soit commun ou personnel. Si je pouvais entendre la lamentation de Marie-Madeleine, ce ne serait pas la même chose. Elle me prive d'un sens essentiel pour appréhender le malheur. C'est justement sa mâchoire décharnée, son drapé sur sa cuisse nue et son renversement stoppé net sur la figure du Christ mort qui m'appelle à la pudeur. Cette œuvre résonne en moi, sans un bruit. Elle se fixe sur ma cornée dans l'obscurité de cette église. Je n'ai plus que ma vue pour observer tous les détails de la douleur. Saint Jean, lui, va se mettre à pleurer. Je dois me retenir pour pas craquer avant lui.
À Bologne, cette sculpture m'a bien plus marquée que les centaines de photos industrielles que nous avons vues durant les quelques jours de notre voyage. Alors que le travail, avec ses représentations, la représentation des travailleurs, des travailleuses, qui aujourd'hui nous pose la question du mouvement social, des syndicats, etc. C'est une question primordiale aujourd'hui, mais je n'ai pas été convaincue par toutes ces photos. En revanche, au cours du temps passé dans cette église, c'est une vieille tristesse de femme morte qui m'a progressivement émue. Comment la tristesse et la force, elles jaillissaient de cette terre cuite.
De ces personnages, je n'ai pu m'empêcher de faire une analogie avec les différentes étapes d'un deuil, quel qu'il soit. Laissez-moi vous partager cette analogie personnelle. Premièrement, à travers la figure de Marie de Nazareth, je vois un premier choc, un déni. Elle pleure, est repliée sur elle-même et a les mains jointes. Elle représente une étape primaire de la réception de la perte, de la tristesse naturellement, mais surtout de la stupeur, comme si elle était prise de court. À travers l'image de Marie-Madeleine et Marie-Mère de Jacques, je vois la colère. Les deux adoptent des postures très spectaculaires, radicalement opposées. L'une accourt vers la dépouille, comme pour s'y plonger, et l'autre la cache avec ses mains, dans une posture de recul. Je crois que les deux vont décidément ensemble et se répondent comme des miroirs. La colère est une étape importante, où la prise de conscience de la perte est tout entière. Saint Jean, selon moi, représente une étape complexe, qui est l'acceptation ou le marchandage. Il présente une expression de douleur, mais contenue, réflexive, presque suspicieuse. La phase de marchandage est celle d'une frustration intense due à la perte et d'une tentative irrationnelle de la retourner, de la faire disparaître. Marie-Salomé, quant à elle, représente une tristesse intense, signe de dépression, voire mélancolie. Elle se tient raide face à la dépouille du Christ, les mains crispées sur ses cuisses, et le regarde. Elle pleure. Pour moi, toute la tragédie de cette phase s'incarne en elle, par la frontalité de sa posture. La suite de toutes ces phases de travail du deuil est l'acceptation, ce moment où, parce que l'on est passé par toutes ces étapes, on peut se détourner enfin de la perte. La réalité, qui n'en est pas moins triste, est admise. Et une distance avec la douleur est alors possible. C'est dans la figure de Nicodème que je vois cela. À genoux, épuisé par son travail, mais regardant droit devant lui, regardant le spectateur. Je le différencie des autres également par ses habits, et le renvoie à la temporalité de Niccolò dall'Arca. Donc, malgré ces différentes phases que j'ai énumérées les unes après les autres, ces différentes figures, différentes images, elles ne sont peut-être pas dissociables. Peut-être se suivent-elles et s'inscrivent dans un travail qui est général et qui évolue avec le temps. Un travail de l'image, un travail du deuil.
Cette ville est maintenant à l'arrêt.
Faisons le deuil des images, faisons le deuil des images,
faisons le deuil,
faisons le deuil des images.
Provoque, tue, barre-toi, hurle plus fort, cours plus loin, plus vite, crame des mecs, crame des putains de mecs, jette le livre, mange leurs yeux, attrape le soleil pour ta peau, démolis les institutions, écris sur les murs, partout, tout le temps, sois violente, hystérique, méchante, communautariste, politique, outrancière, bruyante, malpolie, effrontée, diabolique, contre nature, grossière, n'oublie pas que le féminisme encourage les femmes à quitter leur mari, pratiquer la sorcellerie et devenir lesbienne, jette ce putain de livre et déchiquette l'impératif.
Ce podcast a été réalisé dans le cadre d'une publication du parcours Formation Recherche, Littérature et Photographie 2019-2020, dans le cadre d'une convention de partenariat entre l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles et l'École normale supérieure de Lyon, sous la supervision de Fabien Valos, Yuba Bishop, David Gauthier. Montage, Gaëtan Sorensen.